Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter un projet à Bâle, le Gundeldingerfeld. C'est une réalisation qui a été faite les 8 dernières années, donc c'est ni de la recherche ni de la théorie. Et c'est une approche très pragmatique, vous allez vous en rendre compte très rapidement. En fait, le début du projet, c'est un article de journal qui est paru en octobre 99, où la fabrique Sulzer Burkhardt annonçait qu'elle allait fermer sa fabrique qui est dans le quartier de Gundeldingen. C'est 18 000 habitants, donc c'est un des très gros quartiers en Suisse, le plus gros quartier de Bâle, et qu'ils allaient essayer de vendre les terrains. Trois habitants, le lendemain, le samedi, se rencontrent en faisant les commissions dans le quartier, Madame Bruce et Madame Becker et moi-même, et on décide que c'est une chance inouïe pour le quartier de faire en fait quelque chose pour le quartier au lieu de toujours se battre contre le trafic, donc des choses où on se bat en fait contre la ville, mais d'essayer en fait de prendre une fois les choses en main et de faire quelque chose pour le quartier. Donc on voit une opportunité incroyable de pouvoir faire quelque chose dans le quartier avec cette parcelle qui va se libérer. Donc on écrit une lettre à Sulzer Immobilien et on le dit qu'on aimerait bien acheter cette parcelle assez rapidement. Alors pour que vous ayez un peu une notion du quartier, ce quartier a été dessiné autour de 1875. C'est un quartier, donc j'appellerai à l'américaine, toutes les rues sont orthogonales, il y a à peu près tous les 300 mètres un parc, il y a 4 écoles réparties sur le tout, et il y avait aussi des îlots qui étaient réservés à l'industrie, mais il n'y a pas de centre de quartier, il n'y avait pas d'emplacement prévu pour je sais pas, des zones commerciales. Donc en fait, on se retrouve avec un quartier qui est derrière la gare, qui a été construit pour les employés des chemins de fer, et le quartier a été construit entre 1875 et 1910 environ. Et la fabrique Burkhardt a installé sa première halle en 1891, et donc c'est la première fonction bâtie à cet endroit-là, c'est cette fabrique. Vous voyez là une image en fait de trois halles contiguës. Burkhardt, c'est une des grandes familles baloises ils sont devenus riches en marchant dans des esclaves au 15e, 16e siècle. Et de fil en aiguille, financièrement, ils ont été assez forts. Et ingénieur Burkhardt a décidé de construire une fabrique de compresseurs. Et pendant ces 100 années, ils ont construit des compresseurs à cet endroit. Évidemment qu'une fabrique dans un quartier comme ça, elle participe pas vraiment à la vie du quartier. On a peur de l'espionnage industriel. Donc en fait, c'est vraiment très renfermé sur soi-même. Les 12 000 mètres carrés, personne du quartier connaît ces 12 000 mètres carrés, sauf ceux qui y travaillent. Vous avez là une vue. Je pense qu'elle doit dater à peu près 1840-1850. On voit les différents bâtiments. C'est presque comme aujourd'hui, donc c'est presque. Oui, justement, c'est pour ça. Bon, il y a le tram, vous voyez aussi qu'il y a le tram à côté. Donc, à côté des voitures, il y a les deux lignes de tram. En fait, les bâtiments, un site industriel toujours se développe en fonction de la production qu'on a. Donc, en fait, on ne s'adapte pas aux personnes, mais on s'adapte aux produits qu'on fabrique. Et les dernières halles qui ont été construites quand on a récupéré le site, c'est en 1960. Donc, il y a presque, disons, bien 80 ans entre la première halle et la dernière. La halle du milieu, qui est en forme de basilic, c'est celle de 1891, qui est aujourd'hui sous protection, protégée. Là, vous avez déjà un plan de situation que du site. Je ne vais pas montrer de plan de quartier. On voit assez clairement que le site est entouré de trois rues. Le quartier du Kundeldinger, il a en fait deux très gros axes de circulation. Pas en fait pour les gens du quartier, mais pour d'autres quartiers. Donc, il y a énormément de trafic et c'est aussi des voies à sens unique. Donc, la Tornacherstrasse et la Gundeldingerstrasse, c'est deux de ces axes. Et vous avez la Bruderholzstrasse qui suit le site. Le long de la Bruderholzstrasse, c'est les bureaux. Et tout le reste, en fait, c'est des halles. La plus grosse halle, c'est la halle 7, qui est à peu près 1600 m². Je crois que j'ai déjà dit, la surface de la parcelle, c'est 12 000 m². Et comme on ne connaissait pas très bien le site, on a très, très vite dû commencer à réfléchir qu'est-ce qu'on voulait faire à cet endroit, qu'est-ce qui serait bien pour le quartier. Et les premiers concepts qu'on a réalisés, on les a faits d'après des photos aériennes, parce qu'on n'avait pas accès au site, donc on ne pouvait pas aller à l'intérieur. Et avec ce concept-là, on a essayé de chercher des investisseurs. Mais avant de chercher les investisseurs, on a défini trois objectifs clairs. C'était créer un centre de quartier pour le Kundeldingen, pour ses 18 000 habitants. C'était surtout en fait d'essayer de regrouper toutes les activités qui étaient déjà dans le quartier. Nous, notre but n'est pas de créer ou de démarrer des activités. La nôtre, c'était plutôt en fait qu'on sache. On peut aller ici, c'est là où ça se passe, qui est cette mixité sociale à un endroit. De mettre en œuvre les principes du développement durable, on l'a mis comme objectif, mais en fait pour nous, ça découle de source. C'est une attitude qu'on a. Tous les projets qu'on a faits ces 10 dernières années, que ce soit dans le bureau d'architecture ou avec d'autres partenaires, c'est toujours du développement durable. On ne peut pas imaginer autre chose. Et un des éléments qu'on oublie un peu toujours dans le développement durable, c'est que économiquement, ça doit être viable. Donc pour nous, c'était clair aussi, on fait un centre de quartier, mais il ne faut pas qu'il soit subventionné pour qu'il puisse durer au niveau de la durée, qu'il puisse durer 100 ans, comme la fabrique. Alors on a, en avril 2000, donc 6 mois après l'article, on a réussi à trouver 6 investisseurs qui étaient prêts à racheter le site, 3 caisses de pension et 3 privés. Ça démontre qu'il y avait quand même à Bâle aussi une bonne résonance par rapport aux objectifs qu'on s'était posés. Et ce qui était aussi assez intéressant, c'est qu'on a réussi à trouver tout le financement. Donc on n'avait pas besoin d'un financement encore de banque ou quoi que ce soit. Alors, cette diapositive, il y a un problème. Vous n'arriverez pas à lire, je suis désolé. Donc, au niveau du montage, on était 3 au départ. J'ai déjà dit, on a réussi à trouver des investisseurs. Maintenant, c'était de quelle manière on allait procéder au montage du projet, qui allait être responsable, qui c'est qui allait faire les travaux, qui c'est qui prenait les risques financiers. On a réussi à se mettre d'accord avec les investisseurs, qu'ils achètent le terrain et qu'ils allaient nous donner. Il y a 2 autres personnes après qui sont venues dans le groupe, qu'ils allaient nous donner le tout en droit de superficie. En France, c'est droit emphytéotique. Ce droit de superficie est rattaché aussi au concept qu'on a fait. Donc, on est obligé, ou on s'était engagé en signant ce droit de superficie, aussi de réaliser le concept qu'on avait proposé. Ce qui veut dire que le sol reste aux investisseurs, les bâtiments nous appartiennent. On a racheté tous les bâtiments que vous avez vus avant pour 1 franc symbolique. Nous, au niveau des finances, on n'avait rien du tout. On a créé une SA, donc on a une société anonyme, histoire de pouvoir prendre des décisions très rapides et de pouvoir aussi prendre ce risque financier du développement du site avec cette entité. Donc en fait, par rapport à ce qu'on a entendu avant, la question des gens du quartier. En fait, on est des habitants du quartier, mais on n'a pas étendu. En fait, on a essayé d'avoir une petite entité qui puisse réagir très vite et avancer très vite. Sulzer a été d'accord de nous le vendre et on a repris le site en novembre 2000. Donc, du moment de l'article jusqu'à ce qu'on reprenne, ça, une année, c'est quelque chose d'incroyable, de très rapide pour une opération immobilière de cette taille. L'avantage qu'on avait, c'est qu'on payait cash sur table et qu'on ne mettait aucune condition, ni de plan de quartier, ni de plan de permis de construire. Ils n'avaient pas besoin de tout ce qui était les anciens déchets dans le sol et tout ça. Ils n'avaient pas besoin de régler ce problème. Ils prenaient le risque, mais ils n'avaient pas besoin de les éliminer. Comment ça s'appelle en cité industrielle? 4 minutes. Alors, je vais aller d'essayer très vite. Derrière moi, vous avez une des halles comme elle était avant. Notre idée de départ était toujours de partir de l'existant. Donc, en fait, on n'essayait pas d'essayer de mettre une fonction dans les bâtiments, mais c'est plutôt de partir du bâtiment et de voir quelle était la fonction qui allait le mieux. Dans ce cas-là, on a fait un restaurant à 900 mètres carrés et vous voyez, en fait, on a très, très peu changé la halle. Bon, installation de cuisine, ces choses-là, très techniques, mais ce qui permet, en fait, d'avoir des coûts de transformation très bas, ce qui permet d'avoir des loyers très bas, donc les gens restent plus longtemps. Et on a aussi essayé de toujours faire des start-up, le plus possible, en fait, des gens qui commencent leur activité ici, donc ils s'identifient avec le lieu et ils ne bougent pas après. Afin de démontrer, en fait, cette envie ou cette approche par rapport au développement durable, on a dû, tout au début, comme on avait un financement très très restreint, on a dû en fait mettre en place des choses très visibles mais qui coûtaient presque rien. Donc on a la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a végétalisé le site avec des plantes de gens du quartier qui nous ont amenés. On n'allait pas acheter des plantes, il y a beaucoup d'habitants du quartier qui ont des plantes sur leur balcon, ils ne savent plus quoi en faire. Donc nous, on a tout récupéré, on a mis dans des bacs, vous voyez. Ça, c'est un des exemples. Et on a laissé aussi qu'on puisse les bouger un peu partout. On a fait aussi un programme sur 5 points. On a installé partout des AquaClick avec le logo du site. On a partout mis des savons en dur, comme on avait à l'école il y a à peu près une quarantaine d'années. Donc on transporte, avec le savon liquide, on transporte 80%, c'est de l'eau qu'on transporte, ça ne fait aucun sens. Donc on a réintroduit des savons durs, on a fait des pissoirs sans eau, des urinoirs sans eau, et des thermomètres dans chaque pièce pour que les gens puissent vraiment dire quelle est la température. Donc c'est des petites choses, mais simplement qui ne coûtent rien, mais qui rendent visible en fait le chemin. Hop là. Évidemment qu'au fur et à mesure que le projet avance, c'est une planification roulante, donc on a des locataires qui sont déjà en mars 2001 qui ont pris en possession leurs locaux, mais au fur et à mesure aussi on a un peu plus d'argent pour développer des projets un peu plus intéressants. Et là derrière moi vous avez le siège central de ProNatura. C'est, je crois, l'association protection de la nature la plus vieille en Suisse. Et le siège central n'est pas à Berne, mais il est à Bâle. On a réussi à les convaincre de venir sur notre site. Et là, on a réussi à, plus que les 5 premières interventions que j'ai mentionnées avant, on a fait nettement plus, récupération d'eau, photovoltaïque. On a 800 mètres carrés de parois en adobe, par exemple. Tous les matériaux qu'on utilise sont du massif. Donc, vous avez du bois massif, du métal massif, du béton coloré. Donc, en fait, c'est des matériaux aussi qui vieillissent très bien. Donc, on n'a pas besoin de les changer après 10 ans. Il faut les entretenir, il faut les nettoyer. Mais c'est des matériaux qui vont avoir de la patina. Donc, on n'a pas besoin de remplacer la moitié des choses après 15 ans. Ça peut durer 5 ans. Alors, je devais parler d'espace collectif, donc j'y arrive maintenant. Ça, c'est l'entrée du site. Un des problèmes pour un site qui a été aussi longtemps fermé, c'est comment l'ouvrir au public et pas que tout le monde arrive et que tout le monde veuille faire tout. Donc on l'a ouvert peu à peu, on a d'abord ouvert que pendant la journée les portes, et il faut aussi donner le permis aux gens, la permission des gens de rentrer à l'intérieur du site, et ça souvent dans beaucoup de projets, on connaît aussi ici, c'est le café, le bar où on peut aller boire sa bière, donc en payant sa bière on reçoit le droit de venir sur leur site. C'est pour ça que le restaurant que je vous ai montré avant, c'était un des premiers projets qu'on a réalisé. Afin de faire ce centre de quartier, ce qui était important, c'est comment on allait choisir en fait les locataires pour que ça devienne vraiment un centre de quartier. Et donc, évidemment, c'est que le locataire ait une certaine importance par rapport au quartier et qu'il soit intégré dans le quartier, qu'il soit déjà dans le quartier, par exemple. La composante sociale, on a essayé de la couvrir en disant que s'il n'y avait peut-être pas d'importance par rapport au quartier, mais qu'il devait avoir au moins une fonction d'intégration, que ce soit des minorités linguistiques. On a par exemple un jardin d'enfants francophone. Donc, bah, évidemment, c'est une minorité. Et on a aussi des entreprises qui travaillaient sur le développement durable. Là, j'ai encore quelques diapos par rapport à quels sont les locataires qu'on a réussi à trouver qui ont cette importance par rapport au quartier. Donc là, vous avez une place de jeu couverte gratuite. Quand on a repris le site en 2000, une année après, on a créé dans une des halles, avec des grillages, une place de jeu gratuite pour les enfants. Ils pouvaient venir. Ropispiel Action, je ne sais pas si ça, c'est place Robinson, ça existe. Eux, ils géraient la place, mais et donc ça a tellement bien marché, cette place de jeu couverte, que quelques années plus tard, on en a construit une. Ça, c'est l'image que vous avez derrière. On a aussi un centre de famille, c'est conseil parents-enfants, avec des journées bébés ou du conseil au niveau allaitement des mères. On a une école de cirque, donc ça c'est surtout par rapport à les enfants. On a réussi à convaincre la bibliothèque municipale. C'est pas municipal à Bâle, mais il y a 7 bibliothèques, il y a 7 filiales de bibliothèques à Bâle. Cette bibliothèque, pendant 35 ans, elle a été dans 3 appartements, au premier étage. Il faut s'imaginer ça, pendant 35 ans, quelqu'un en chaise roulante ou en béquille, aucun accès. On a mis 2 ans à les convaincre à venir sur notre site. Alors là, ils sont venus, ils ont 500 mètres carrés. Ils ont doublé le nombre de personnes qui viennent chercher les livres, les médias. Donc ça a été un succès. Là, vous voyez des activités où les habitants du quartier s'involvent beaucoup. Ça, c'est un marché aux puces dans une des halles. Téléchargement difficile. Voilà. On a évidemment aussi des choses qui ne sont pas publiques ou collectives, mais où quand même un attrait pour le quartier, une halle de grimpe, ce que je disais par rapport à avant, de partir en fait du bâti pour chercher une fonction, ça c'est un assez bon exemple. Il y en a d'autres. Je montre encore 3 diapos, c'est bon. Fête de la culture, on a à peu près maintenant 250 personnes qui travaillent dans ce centre, avocats, des gens qui développent des logiciels, les gens qui travaillent à la bibliothèque, et on a à peu près par jour environ 1000 personnes qui viennent sur le site pour différentes activités. C'est aussi un centre de rencontre pour enfants, la place de jeu gratuite, cette partie de jeu-là. Donc, pour nous, c'est un gros succès. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte que ça a été mis en place les 8 dernières années. Les gens qui arrivent maintenant dans le quartier, pour eux, c'est comme ça devait déjà être là avant. Vous êtes bien sûr invité à venir une fois à Bâle, à aller manger au restaurant, c'est super. Merci.